Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici dans le 8e et dernier épisode de la série spéciale Terres Intimes enregistrée au Salon International de la Lingerie. Avant de vous le présenter et de vous parler des trois femmes qui sont venues nous parler de bien-être intime, je souhaitais prendre une petite minute pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette série et qui ont permis de réaliser non pas la première table ronde de ce podcast, mais les quatre premières, et surtout en public. Merci à Delphine, Julie et Océane d'être venues nous offrir leurs conseils sur le postpartum. Merci à Aurélie, Capucine et Cindy de nous avoir parlé de leur parcours autour du cycle menstruel ainsi que de leurs outils et ressources pour bien vivre avec. Merci à Aurélie, Catherine et Vanessa pour nous avoir fait découvrir dans la troisième table ronde la place de la lingerie dans les différentes phases de leur vie. Et un grand merci à Betsabé, Najwa et Pauline que vous vous apprêtez à entendre. Bien sûr, je souhaite également remercier Melvin, Manon et Aurélie qui ont partagé à ce micro des précieuses histoires sur leur intimité et leur sexualité, ainsi qu'à Maya Mazorette qui nous a fait l'honneur de nous partager ses réflexions sur la lingerie masculine. Ce qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez retrouver toutes ces tables rondes, ces voix et ces parcours sur votre plateforme d'écoute préférée, car tout est déjà publié. J'espère qu'ils vous aideront à faire une révolution d'amour entre vous et votre cœur, votre corps et votre monde intime. Ce qui est certain, c'est que la table ronde que vous vous apprêtez à entendre ne vous laissera pas indifférent et indifférente. Je vous laisse imaginer une grande table ronde blanche sur un plateau de podcast, des stands de sex toys et de produits pour les foufounes juste à côté, des centaines de personnes qui s'arrêtent, se promènent, écoutent des bribes ou restent tout le long, et quatre femmes autour de cette table qui parlent de sexe et d'intime. Je pense que c'est déjà un petit peu une révolution. Mais continuez à imaginer Betsabé avec son pull rose, un franc-parler inspirant et génial, et une marque de baume intime. Najwa, pleine de douceur et de délicatesse, créatrice d'un gel intime pour la vulve. Et Pauline, pétillante, passionnée et à l'origine d'un sextoy texturé. Je ne pouvais pas mieux terminer cette série spéciale sur l'intimité. Avec ces trois entrepreneuses, nous avons discuté d'odeurs de vulve, du besoin de douceur envers et avec soi, de sextoy bien sûr, de pénétration, de course à l'orgasme, des gestes pour prendre soin de soi après le sexe et dans la vie, de connexion, de baume pour l'anus et d'exploration. Je vous souhaite une excellente écoute de ces parcours, ces réflexions et ces voix. Bonjour à toutes.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Super. Très bien, merci.
Comment tu vas, Najwa ? Très bien. Merci beaucoup d'être là pour cette interview au Salon International de la Lingerie. C'est le troisième jour du salon. On est toutes un petit peu fatiguées de ce salon très intense avec de la lingerie partout. En tout cas, c'est un plaisir. Moi, j'ai fait toutes mes interviews en regardant vos stands. Betsabé, tu as entendu toutes les interviews de Terres Intimes pendant les enregistrements. Donc, merci d'être là alors que vous êtes quand même très, très, très busy. Donc, pour commencer, je voulais que vous puissiez vous présenter chacune votre tour et nous dire un petit peu comment vous êtes arrivée à travailler dans le bien-être intime et surtout, c'est quoi pour vous la définition du bien-être intime. Donc, on peut commencer par toi, Najwa, si c'était OK.
Bien sûr. Alors, donc moi, je m'appelle Najwa. J'ai créé une marque monoproduit d'hygiène intime qui s'appelle Woomy. C'est un produit nettoyant intime. Je l'ai créé pourquoi ? Parce que ma gynéco et d'autres gynécos sont à l'origine contre les produits d'hygiène intime parce que ça décape et que ça déséquilibre la flore intime. Sauf que moi, je ressentais quand même le besoin de me laver, de me nettoyer et aussi d'un peu m'hydrater parce que l'eau que j'utilise pour me laver, donc qui est l'eau de Paris, elle me déshydratait énormément et je voyais une différence. Donc moi, du côté de ma mère, je suis marocaine et ma grand-mère était marocaine et on avait toujours pour habitude que si on a un rhume ou une maladie ou n'importe quoi, on a envie de quelque chose, elle avait une connaissance des plantes incroyable et donc elle me concoctait toujours quelque chose. Donc, elle m'avait concocté ma petite formule, mais que je ne pouvais pas garder plus de 2 semaines, 3 semaines, parce que c'était vraiment 100% naturel. Et en partant en voyage avec des amis, il y en avait toujours une qui m'en piquait un petit peu pour l'utiliser. Et je me suis dit, bon, bah, je ne dois pas être la seule à avoir ce besoin de me sentir propre. Et c'est là où j'ai commencé à faire donc 3 ans et demi de recherche, parce que c'est complètement différent quand on le fait sur un beaucoup plus de produits et qui doivent durer beaucoup plus longtemps en rayon, etc. Et les gynécologues qui étaient vraiment contre les produits gènes intimes se sont mis avec moi pour justement inventer cette formule parfaite, et ils m'ont dit on est contre parce que ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché n'est pas adéquat. Et voilà, donc c'est parti sur cette aventure, et maintenant je suis très contente de, sur un niveau personnel, là où ça m'emmène aussi, parce que en m'intéressant à ce concept, à ce produit, et à vouloir pousser toujours plus, j'ai appris beaucoup sur moi-même aussi. Donc voilà.
Tout le sujet de l'entrepreneuriat féminin qui, voilà, je pense, transforme le monde, mais aussi nous-mêmes.
Exactement.
Et toi, Betsabé, c'est quoi ton parcours ?
Alors, moi, j'ai été journaliste spécialisée dans la sexualité, la société sexualité. En vrai, je parlais globalement de couple, mais je recevais beaucoup de produits. Et je recevais des produits absurdes, globalement made in China, une fois... genre de la poudre à fesser, des trucs de ouf. Et en fait, moi, j'ai toujours été assez sensible. Donc, en gros, j'ai fini par créer le produit dont j'avais besoin et qui n'existait pas. À la base, pareil, c'était un peu comme toi, concocté pour moi de façon vraiment personnelle. Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Donc, au début, c'était de l'huile de coco et tout ça. Et quand je me suis associée avec Cécilia... on s'est dit, bon, on va faire la formule parfaite pour nous. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours, parallèlement à ça, intéressée aux plantes. Je pense que, pour moi, toutes les femmes, elles ont un destin de devenir sorcières.
Oui, complètement.
Donc moi, j'ai commencé ce destin-là, je pense... je ne sais pas, mais en tout cas, moi, oui. Et du coup, c'est vrai que je m'intéressais aux plantes. Donc je me suis dit, bah, tiens, on va mettre du calendula pour ci, on va mettre ça pour ça. Enfin voilà, on a créé la formule et on a fait donc un baume pour la vulve. Et au début, en fait, le bien-être intime, c'est tellement flou parce que c'est entouré de tabous. C'est-à-dire qu'on disait vulve et les gens étaient là pour la vue. Pour la vulve. Ah, pour le vagin.
Et non,
pour la vulve. Et ils nous disaient, ouais, mais c'est moche, vulve. Dis vagin.
Ça, mais... c'est pas la même enfin, chose.
C'est moche, enfin, c'est comme ça. Est-ce que, je sais pas, est-ce que œil, c'est joli, tu sais, comme mot. Mais les gens, ils sont particuliers, quoi. Donc, en fait, on a dit, non, on va dire vulve. Et c'est marrant parce qu'au début, on disait intime. Et de plus en plus, on a précisé. Et en fait, le problème du bien-être intime, c'est que le tabou fait qu'on a l'impression d'être défaillante si on admet qu'on en a besoin. Bah, c'est comme... il y a ce tabou, on est censé, tout est censé aller bien. Donc si tu dis, bah non, j'ai besoin de ça pour mon bien-être intime, il y a comme au départ une idée de défaite. Alors c'est parti, avec le temps, ça s'est vraiment bien démocratisé. Mais quand on a commencé, nous, on a commencé l'idée en 2015, donc 2016, on a bossé sur le truc. C'est sorti en 2018-2019, mais vraiment, en 2015-2016, nos amis, notre entourage, tout le monde nous prenait pour des folles, quoi. Et que c'était niche, et que ça n'allait intéresser personne, et il y avait des femmes qui le prenaient presque mal, en plus. Parce que ça, c'est comme si ça les mettait en porte-à-faux, c'est-à-dire que si on vient et qu'on dit, bah, t'as une gêne ici, tu peux mettre ça, et ça va te faire du bien... il y en avait qui se sentaient bêtes en se disant « Mais moi, ça fait 40 ans que je vis avec des gènes, peut-être. » Et donc, si tu me dis que ça peut partir, il y avait un côté où elles se sentaient idiotes. C'est pas, nous, on ne voulait pas qu'elles se sentent idiotes vu que ça n'existait pas. Mais elles se sentaient en porte-à-faux. Donc, et ça, je pense que c'est assez typiquement féminin, déjà, de quand ça va et quand ça ne va pas, tu te sens toujours responsable, en fait.
Complètement.
Donc, voilà, pour répondre un peu plus... je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais sur le bien-être intime... je pense que c'est une étiquette qui a beaucoup de tabous et qui responsabilise beaucoup, en fait. Si tu vas pas parce que bah, tu fais pas ce qu'il faut, tu vas pas voir les gynécos qu'il faut, tu prends pas de toi comme il faut, et si ça va bien, bah tant mieux. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de problème, mais c'est presque pas évoqué, quoi.
Ouais. Non, c'est très bien. C'est une bonne réponse qui fait aussi une belle introduction à tout ce dont on va parler après. Donc, merci beaucoup. Pauline, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience ?
Oui. Alors, du coup, moi, tout a commencé en 2020, quand j'ai monté mon propre love shop 100% féminin, suite au constat un petit peu terrible, je trouvais, que quand on cherchait son premier sextoy, soit on tombait sur des pages internet ou qui sont pas super, qui mettent pas beaucoup en avant la femme comme elle devrait être mise en avant, et surtout où il y a un catalogue de produits qui était énorme avec des objets qui partaient dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, ah, ça me va pas, et j'ai monté ce premier projet que j'ai eu pendant 3 ans. Avec donc cette sélection vraiment de sextoys mignons, décomplexants, qui puissent vraiment être pensés par des femmes pour les femmes au maximum. Et donc j'ai fait énormément de soirées où j'ai été en contact avec beaucoup de femmes. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était dans le milieu de l'intime, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup de produits texturés ou de produits vraiment qui éveillent la sensorialité. Et du coup, moi, j'ai voulu créer une marque qui soit vraiment sensorielle, dédiée à l'intimité, dans cette idée, en fait, de pouvoir se reconnecter à ces sensations. Parce que pour nous, les femmes, je pense, même pour les gens en règle générale, mais surtout pour nous, les femmes, par exemple, les doigts, ils ne sont pas lisses. Un pénis, ça n'est pas lisse. Donc, pourquoi les vibros, ça devrait être tout lisse? Et donc, du coup, de toujours aller dans cette idée de... On va vraiment pousser sur les vibrations, pousser sur la technologie, par exemple, d'air pulsé qui va procurer des orgasmes en 20 secondes. Et donc, du coup, on va vachement se déconnecter de notre corps, de nos sensations. Et on se pousse à la consommation même du plaisir, de l'orgasme. Et voilà, il y a toute cette déconnexion au corps, à notre partenaire. Et donc, avec Nu, moi, ça a été vraiment cette idée de... OK, on revient un petit peu, on fait l'inverse. On a des produits, aujourd'hui un monoproduit en silicone texturé qui permet vraiment de ressentir les sensations. Mais vraiment, Nu, j'ai envie d'avoir une gamme de produits complète qui permettent de prendre le temps. Parce que dès lors qu'on tire les rideaux, on allume une bougie, on met un fond musical, on se reconnecte à son plaisir, à son partenaire. On prend le temps, en fait, d'être plus dans cet éveil des sens, en fait. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans cet univers. La douceur, la prise de temps, d'éveil des sens. Un petit peu ça qui m'a poussée à créer ma propre marque, en fait.
Merci beaucoup. Pour continuer, mais je pense que vous avez déjà un petit peu introduite tout ce dont on va parler après. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a des besoins qui se réveillent au niveau du bien-être intime, du fait qu'il y ait de moins en moins de tabous, ou en tout cas, on met en lumière les tabous qui existent. Et il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de questionnements des femmes qui se demandent, OK, comment je prends soin de moi? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de moi? Donc, vous qui avez un petit peu étudié le marché, ou en tout cas, qui avez fait des recherches sur ce sujet, c'est quoi les besoins auxquels il faut répondre aujourd'hui? Les sujets sur lesquels la société a besoin vraiment de suivre, tout ça dans une vision un peu plus large de seulement les sextoys ou vraiment sur le bien-être intime. Qu'est-ce que vous avez défini comme besoin? Betsabé, est-ce que tu veux commencer?
Oui, alors c'est la société, je pense qu'il y a quelques temps, c'est ce qu'on a suivi, c'était l'intimité de la femme, c'était la vulve, parce que c'est une zone qui est très abîmée par les méthodes modernes, c'est pas ça, c'est les façons de vivre modernes. On n'est pas faite à la base pour être assis 8 heures par jour dans un certain type de vêtements. Donc effectivement, je pense qu'une paysanne en toile de jute, sans culotte dans son champ, elle avait peut-être probablement moins de problèmes de vulve. Donc aujourd'hui, notre façon de vivre plus moderne, et voilà, certains partenaires ou même le préservatif va créer des problématiques sur l'intime. Et pareil, par exemple, dans la ménopause, le fait d'avoir des contraceptions hormonales durant toute sa vie va créer une ménopause plus complexe qui souvent va se répondre de façon hormonale. Donc tout ça va créer des gènes. Donc avant, voilà, je pense qu'il y a le domaine de la vulve. Mais moi, mon nouveau cheval de bataille, on va dire, c'est prendre en compte le sexe des enfants sans les sexualiser. Parce qu'en devenant mère, je me suis rendu compte quand même qu'ils ont toujours des irritations, ils ont toujours des problèmes intimes, et que c'est vraiment pris à la légère, alors que si nous, on avait le quart de l'irritation d'une bébé avec les couches, mais on pourrait pas s'asseoir, quoi. Enfin, nous, on a... Voilà, j'allais dire, on a eu le pif, ou en tout cas, on a eu l'envie de faire des produits qui étaient suffisamment biologiques pour être à tout âge. Et c'est vrai qu'une fois que, voilà, on s'est battu pas mal d'années pour parler de la vulve, et l'année dernière, je me disais, OK, next. Pour moi, là, maintenant, il y a un truc aussi sur les enfants. Et c'est très compliqué, c'est délicat, parce que, voilà, c'est parler de sexe sans sexualiser, mais c'est aussi des êtres qui ont des parties intimes. Et donc, en prendre soin. Et il y a un tel tabou, et puis il y a une telle peur qui est légitime, hein, de comment prendre soin d'un enfant sans attaquer son intimité, tout en le protégeant. Voilà, il y a beaucoup d'aspects. Mais c'est vrai qu'on arrive maintenant à l'école, et ben, ils ne peuvent pas se nettoyer à l'école parce qu'on n'ose plus les toucher. Ils ont du papier toilette, mais vraiment que nous, on n'utiliserait jamais de notre vie tous les jours. Donc je pense que, voilà, pour répondre très facilement à ta question, plus globalement, universaliser le soin intime à toutes et tous et à tous les âges.
Et puis moi, du coup, si je peux rebondir, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui de voir des marques qui émergent en prenant vraiment en compte ce qu'on met dans les produits intimes. Parce que je pense que pendant des années, comme tu disais, il y a énormément d'ingrédients et de matériaux qui sont utilisés, qui sont controversés et qui pêchent plus et qui dessert plus, par exemple, la femme, qu'en est utile pour la femme. Et pareil, sur le silicone souvent utilisé, ou les matériaux utilisés, par exemple, dans les vibros, moi, ça, je l'ai vu combien de fois, que c'était pas normé, c'était bourré de phtalates, des produits, en fait, en jelly, qui pouvaient être hyper perturbateurs endocriniens, enfin, des choses qui sont aberrantes. Et se tourner vers des matériaux et des ingrédients qui sont intéressant pour la femme et respectueux du corps, c'est hyper intéressant. Typiquement, là, il y a beaucoup de marques aujourd'hui de vibro qui utilisent des silicones hypoallergéniques, sans phtalates, qui peuvent être utilisés pour les cups menstruels, les objets de mastication de bébé. Et en fait, tout ça, c'est OK, on prend soin de soi, on se fait du bien, mais aujourd'hui, on peut tendre à avoir le choix de se dire on fait tout ça, mais en respectant son corps. Et ça, je trouve ça trop bien.
Ouais. Ouais, merci.
Moi, ce que j'ai observé, c'est que quand, par exemple, quand j'explique à certaines personnes, quand je dis oui, donc c'est possible que vous ayez des mycoses à répétition parce que vous êtes trop propre, parce que vous utilisez votre gel douche, parce que ceci, parce que cela, elles se rendent compte, ah oui, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte. C'est pour ça que j'avais. Ça peut être. Il peut y avoir d'autres cas aussi, mais il y a parfois ce cas-là. Ça m'a fait réaliser qu'on n'est pas du tout éduqué en fait à ce sujet, que ce soit dans l'alimentation, ce qu'on va porter, ce qu'on va mettre dans cette zone-là, et que on est tellement habitué à avoir mal. En tant que femme, j'ai l'impression qu'avant vraiment qu'on s'alarme et qu'on se dise OK, il faut peut-être que j'aille voir un médecin ou que je me renseigne ou que je change des habitudes que j'ai pour faciliter ma flore intime ou ma flore intestinale, par exemple. Voilà, on met beaucoup de temps. Donc j'ai appris qu'il y avait énormément d'éducation à faire. Et ça passe pas que par des produits, ça passe aussi par ce qu'on consomme, comment on prend soin de nous-mêmes, en fait.
Bah, j'aime beaucoup parce que je trouve ça, tout ça, c'est assez relié. Dans ma tête, il y a vraiment la phrase révolution intime qui arrive. Parce que même, Bethsabée, tu parles des enfants, mais c'est vrai que si en tant qu'enfant, on nous dit, bah, effectivement, quand tu as des irritations, c'est OK de prendre soin de ta vulve, ou c'est OK de regarder, ou c'est déjà mettre le mot, bah, ça, c'est une vulve. Mmh. Voilà comment tu peux te sentir, il y a des moments tu peux avoir des irritations, il faut pas trop se laver. Moi, le coup de il faut pas trop se laver, c'était il y a deux, on en a parlé il y a 4 ans, enfin, et moi j'étais là, ah bah on m'avait pas spécialement dit.
Même moi, enfin, je pense.
Ouais, c'était vraiment, et dans ma tête j'étais là, waouh, j'aurais bien aimé qu'on me le dise un petit peu avant. Et toute cette idée de révolution du soin aussi. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Pauline, sur le besoin de ralentir, le besoin de se reconnecter à ses sensations. Et je trouve, en tant que femme, on n'est pas tellement, on nous apprend pas à être à l'écoute de nos sensations, à l'écoute de nos besoins. On va aller jusqu'au bout d'avoir des irritations à mort avant de se dire, OK, je vais me prioriser. Et là, je vais me dire, qu'est-ce qui va pas? Et je trouve que tout est relié dans je me connecte à OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment mon sexe va? Est-ce que je me sens bien dans mes vêtements? Est-ce que je me sens mal? Je me reconnecte à ce qui est bon, aux sensations, à la lenteur. Et dans une société qui va toujours très vite, c'est une révolution du soin un peu plus général, je trouve, oui, auquel ça participe. Donc merci de participer à cette révolution de l'intime.
Ça me donne envie de rebondir juste un truc par rapport au temps de ce que tu dis, au temps sociétal, etc. Il y a aussi l'aspect, tu vois, quand je te disais, voilà, nous on a fait un soin qui n'existait pas, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la sexualité, avant qu'il y ait le produit, mais bon, et que souvent si tu les connais pas, t'as tout un type de lubrifiant, tout un type de choses pour être pénétré. Donc en fait, t'as même pas mis le bout du pied dans le début de ta sexualité, que t'as une panoplie. Non, alors sans même parler des pathologisations, c'est-à-dire de toutes les MST, de tout ce que tu sais, t'as une panoplie pour être pénétré, et puis c'est tout.
Mais rien pour
prendre
soin.
On t'explique même pas comment prendre soin, c'est-à-dire que à part lors d'un rapport pénétratif basé sur le pénis, globalement, on va pas te dire comment bien te nettoyer ou comment faire attention. Si tu as tendance à avoir des mycoses, effectivement, change ton alimentation, change tes sous-vêtements. Personne ne va rien te dire. On ne va rien te dire sur comment prendre soin même après. Le côté, le pipi qui pique après l'amour, classique, normal, très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Et tout est basé sur une sorte de douleur quand même. Oui. Douleur du premier acte, douleur tout à l'heure, vous en parliez aussi, douleur du premier tampon que tu te mets. Et donc quand même des lunettes de... Moi, j'ai trouvé de beaucoup d'actes pénétratifs où, en fait, t'as quand même le sentiment que, globalement, on s'en fout de la femme, en fait. Tout ce qui intéresse, c'est introduire et le recevoir sur le moment M. Parce que l'après, si t'as mal avec le latex, si t'as une mycose parce que ton partenaire, je sais pas quoi, si t'as pas fait pipi à 4h30 du matin et que tu t'es endormi malheureusement,
tu vas te régénérer.
Et du coup, ouais, je trouve que ça manque de respect, en fait.
Oui, et du coup, moi, si je peux rebondir justement sur cet acte de très pénétratif, en fait, c'est que souvent, typiquement, même sur les vibros, ils sont toujours assez épais. Toujours cette idée... Enfin, ils ont souvent été assez épais. Cette idée de... on va faire un rabbit qui tourne dans tous
les
sens.
Celui avec les veines, là.
C'est ça, avec les veines.
Ah,
ou alors
terrible.
Le rabbit qui tourne dans tous les sens. On se dit, allez, tiens, toi, pour te faire plaisir en tant que femme, je sais, moi, en tant qu'homme, que ce que tu as besoin, c'est d'un vibro qui fait 30 cm et 10 cm, limite, de diamètre. Et c'est hyper violent pour la femme, quoi. C'est hyper intrusif. Et souvent, en plus de ça, c'est que t'as les lubrifiants qui te disent en plus, bon, mais on peut faciliter cette insertion, on va pas prendre le temps de ralentir, de se demander, ok, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait pas du bien, c'est pénétration, pénétration, pénétration.
Non, l'important, c'est le réarmement démographique, c'est ça.
Ah, ouais, ne me lance pas.
Et vas-y, non, vas-y.
De stérilet.
Quand tu m'as fait découvrir ton produit ce matin, elle a fait quelque chose que j'ai adoré, c'est qu'elle a pris donc le vibro et elle m'a dit, et tu peux redécouvrir des sensations, et elle l'a mis sur son bras comme ça. Et j'ai trouvé ça génial parce que, justement, sur cette quête de l'intime et de la sexualité, je découvre, enfin, sûrement qu'on le sait au fond de nous, mais on a tellement d'injonctions qu'on ne s'en rend pas compte, que le corps entier est sensoriel et que le corps entier peut être orgasmique.
Et puis souvent plus sensoriel que ce qu'on pense être
exactement.
Sensoriel. Tu vois, le
exactement.
Vagin, c'est sensoriel, enfin, c'est sensible à, sur les premiers centimètres, mais par exemple, ta peau, elle a beaucoup plus de capteurs
bien
de
sûr.
Sensorialité. Qui peuvent être hyper intéressants à aller explorer aussi dans ton intimité.
J'adore, je vous écoute comme ça.
On peut en parler pendant des heures.
Mais en fait, c'est juste que j'ai lu un truc il y a deux jours qui m'a rendu ouf. J'ai fait pas mal de recherches pour les interviews. Il y a vraiment cette idée que, par exemple, dans les livres en SVT, en école, on va nous montrer donc, le sexe de l'homme. Donc il y a le pénis, les glandes, tout ça, tout ça. Et la femme, il y a le vagin et le système reproductif. Et donc c'est exactement ça, ce côté de l'important, c'est la pénétration parce que ça a une utilité. Mais on va jamais représenter le clitoris, qui est un organe donc pour le plaisir, uniquement pour le plaisir. Il y a une théorie qui dit que le clitoris est là pour nous aider à mieux gérer les douleurs pendant l'accouchement, que j'ai trouvé
bien
super
sûr.
Intéressante aussi.
Tu peux
aussi.
Te masturber pendant ouais. l'accouchement, effectivement.
Mais en tout cas, c'est pas représenté. Et il y a une nana qui disait, mais imaginez que dans les livres d'école, il y ait que les couilles de présenter. Ce serait chelou. Mais voilà, ce
dit
serait méga chelou.
Classe.
Parce que le pénis en soi, oui, t'as l'urètre, mais bon, on pourrait juste faire comme la femme, un petit truc,
oui,
là t'as l'urètre.
Complètement.
Et j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est absurde. Et en fait, toutes ces réflexions sur déjà les capteurs sensoriels, donc on sort de juste l'idée que la pénétration, c'est au centre
c'est
de la
ça.
sexualité, et qu'il faut prendre soin de plein de choses, et on sort du tabou de non. la douleur n'est pas naturelle oui. pour les femmes. Et ça, c'est pour ça que je trouve que tout est énormément relié dans ce que vous dites. Mais par exemple, là, j'aimerais aller dans cette idée de tabou et un peu les injonctions qu'il y a. Parce que moi, c'était, par exemple, quand je vois un nettoyant intime, je sens en moi la petite Juliette du collège où, en gros, tous les garçons, ils étaient en mode, de toute façon, les sexes des meufs, c'est crade, moi, je ferai jamais de cunis, etc. Qui crée, et c'est ce que j'ai pu voir dans les interviews et les rencontres, énormément de charge mentale et de complexe. Le nombre de nanas qui, pendant les cunis, se disent, oh là là, ça va sentir mauvais, je préfère pas, c'est dégueu, qui naissent de tout ça. Et donc moi, je me suis dit, créer un gel intime, est-ce que ça ne va pas nourrir encore plus ce tabou ? Et en fait, c'est un cercle vicieux où on s'éloigne encore plus de... Bah, en fait, si moi, ça me fait du bien, je vais juste bien le vivre et si ça me fait me sentir bien. Et donc je voulais parler un peu des tabous comme ça, comment vous créez ces marques, comment vous révolutionnez l'intime en étant dans cet équilibre entre ne pas créer d'injonctions, ne pas nourrir les tabous et vraiment donner des outils pour émanciper et qu'on puisse bien vivre dans notre corps.
Alors nous, dès le départ, la première vidéo qu'on a postée sur l'Instagram de Rumi, c'est une gynécologue qui dit pour vous laver, vous n'avez besoin que de l'eau. C'est la première vidéo qu'on a postée, elle est encore sur notre site aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est qu'on a voulu proposer un choix. Et on ne dit pas il faut se laver tous les jours avec ça. On dit bah, si il y a des jours où vous sentez que vous avez envie d'utiliser quelque chose, vous pouvez utiliser Wumi en toute sécurité. C'est plus dans ce sens-là. Mais on ne met jamais d'injonction. Et même pour les personnes qui viennent nous voir, je dis c'est vraiment une proposition, c'est un choix. C'est pas du tout une obligation. Et voilà, moi je savais que j'en avais besoin et j'étais triste de pas pouvoir en trouver, donc ça part plutôt de là. L'idée elle est pas d'aller chercher toutes celles qui se nettoient seulement avec de l'eau et qui n'utilisent pas Wumi, d'aller voir et de leur dire toc toc toc, par contre tu devrais utiliser ça. Pas du tout, c'est vraiment pas notre but.
Oui, c'est créer tout un imaginaire, pardon.
Non,
c'est créer tout un imaginaire de t'as le choix, c'est... Parce que ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu Gwyneth Paltrow qui avait fait une bougie de l'odeur de son vagin. Moi, j'étais là, mon vagin ne sent pas du tout comme ça. Hein.
Enfin,
moi,
tu l'as senti la bougie ?
J'ai pas senti, du coup. Ouais.
J'ai pas senti la bougie, mais tu l'as senti la bougie ?
Non, mais tu sais pas comment ça sent.
Non, mais ça sent... je me vois pas mettre
surtout,
une bougie...
Surtout, est-ce que tu as senti ton vagin ? C'est un peu compliqué.
Ouais, non, c'est-à-dire, mais je me dis, c'est pas possible, tu peux pas... Enfin, moi, je trouve ça tellement bizarre. Et je sais pas, elle avait créé tout un produit pour... Il y a tout ce truc de... Aujourd'hui,
les douches,
c'est
les douches
pour que ton vagin sente bon, qu'il sente la fleur. Il y a vraiment une communication autour de ton vagin.
C'est comme les parfums intimes ou les déodorants.
Exactement.
Moi, c'est vrai que je trouve ça un petit peu compliqué. Après, ce que j'ai adoré, toi, ton concept, justement, quand j'ai lu ton approche, ce que j'ai adoré, c'est que justement, déjà, tu expliques que, par exemple, le vagin, il est auto-nettoyant. Mm-hmm. Pas de souci, tu t'en occupes pas. Mais par contre, que ta vulve, tu peux venir avoir ce soin qui soit bien, respectueux. Et ça, c'est super bien parce que c'est comme la peau. La peau, on n'est pas obligé de se savonner tous les jours la peau. Les bras, sauf en plein été, peut-être, si tu vas tous les jours à la plage. Mais sinon, on va dire que ce n'est pas une nécessité.
Ouais.
Ben, la vulve, pour moi, je trouve ça trop bien de pouvoir avoir cette option-là, d'avoir ce produit sain.
Exactement. Il y avait ça. Et aussi, pour le côté esthétique, j'avais envie de créer un produit joli.
Ouais.
Dont on est fier d'avoir dans sa salle de bain ou dans sa douche, contrairement à tous les autres produits où dès qu'on parle d'intimité, même ta marque aussi qui est très belle et c'est cool aussi que les produits sexuels ou intimes fassent partie de nos shelfies quand on prend en photo avec nos jolis produits pour le visage, pour le corps, et que pourquoi les produits d'hygiène intime sont toujours un packaging bizarre, on dirait qu'on vient pour décaper un truc donc voilà.
Après, si je peux me permettre, moi ce que j'entends dans ta question, Juliette, après c'est je l'avoue, moi j'analyse tout sous l'angle des rapports entre hommes et femmes, des rapports de domination. En fait, pour moi, cette question elle vient d'un marketing assez agressif qui a été inventé par les hommes, c'est-à-dire tu n'en as pas besoin et on va te faire en sorte que t'en as besoin.
Ouais.
Donc on va t'expliquer que tes poils sont dégueulasses pour que tu vas, pour que tu te rases. Et le truc, c'est qu'après, les femmes arrivent sur le marché avec des idées qui leur conviennent et on a l'idée de encore une injonction que on n'a pas créée nous en fait, qu'on a plutôt subie. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Je pense que cette idée du marketing agressif qui a été fait entre les années 50 et 80. Nous, on est, enfin, je pense pas qu'on soit là-dedans comme tu expliquais pour Wumi par rapport à la vidéo sur ton site où nous, effectivement, on a aussi fait un soin à l'avant solide pour la vulve. Et pareil, c'est très bien l'eau pour la vulve. Encore une fois, quelle eau ? C'est vrai que c'est que de l'eau.
Ouais.
Bonjour l'eau calcaire de Paris. Alors oui, si tu te laves dans ta... Non mais pareil, moi dans ma rivière en Corse, il n'y a pas de problème. L'eau, elle est nickel, j'ai pas de problème. Mais l'eau... hein ? Donc il y a eau et eau, j'ai envie de dire. On n'est plus à l'époque des toiles de jute dans les champs. D'abord, et ensuite, nous ce qu'on se disait, c'est quand t'as fait l'amour, quand t'as tes règles, ou même pour te laver l'anus, t'as peut-être envie d'autre chose que juste de l'eau. T'as peut-être envie quand même de... te sentir propre et pas parce que ça fouette de base, mais juste effectivement la journée t'es quand même, non mais bon, t'es au bureau, on n'est pas tous là avec notre bidet portable, donc à un moment donné, encore une fois, on est dans des vies modernes qui fait qu'on n'est pas là dans les toilettes parfaites pour pouvoir avoir une hygiène parfaite. Du coup, bah oui, t'as envie d'être sûr que tu sois propre, sexe oral ou pas sexe oral après. Et enfin, je voulais juste un dernier point par rapport au fait de créer des nouvelles injonctions. Nous, quand on a fait notre soin pour la vulve au départ, on disait que c'était une niche. Après, je voulais dire que si on se base aussi sur des chiffres et quand on fait des études, nous, on a fait une immense étude sur les douleurs vulvaires. Donc voilà, 99% des femmes l'ont déjà eu. Donc à un moment donné, ce qui était marrant, c'est que le premier réflexe de ces niches, en fait, pour moi, c'était une idée comme ça dans l'atmosphère qui venait d'un monde de mecs, en fait. C'est niche quoi ? 52% de l'humanité, c'est niche ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ?
Enfin, mais c'est une méconnaissance des besoins et des corps et de tout.
Et puis c'est une ignorance de la moitié du monde. Et donc ça, je trouve que... Voilà, tout à l'heure, quand tu parlais des bouquins de SVT, je me disais, mais à qui profite le crime ? Franchement, ils sont cons, mais ils sont forts, les mecs, quoi. Il y a quand même un côté, le fait d'avoir... Enfin, t'imagines, sinon... Le fait d'avoir tellement zappé le truc, tiens, le clito, on s'en fout. On sait même pas comment le faire marcher, on va pas le mettre dans le bouquin.
On sait même pas à quoi ça ressemble.
Et on sait même pas à quoi ça ressemble. Et encore une fois, c'est une femme qui a fait la première impression 3D. Moi, je suis une militante un peu givrée aux US, mais qui se bat pour que le clitoris soit bien montré dans tous les livres de médecine, pas que à l'école, dans les livres de médecine, études supérieures.
Mais dis-toi que j'ai assisté à une conférence la dernière fois de deux gynécologues qui disaient, mais jamais de ma vie, j'ai entendu parler de clitoris, de la taille du clitoris. Par exemple, même d'endométriose, ils n'apprennent même pas ça en gynécologie.
Et c'est ça quand crée même 10 ans d'errance médicale pour l'endométriose, par exemple.
Et là, elle disait, en fait, ben, ça commence à venir, mais sauf que, par exemple, sur les chirurgiens, gynécologues, tout ça... C'est quand même 10 ans d'études. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils vont sortir au bout de 10 ans. Donc là, aujourd'hui, ils commencent à l'apprendre. Dans 10 ans, on a des gynécologues formés dans leurs études autour de ces sujets-là.
Et encore, hein, parce que moi, l'américaine que je suis, qui est un peu givrée, elle s'est fait, en fait... ce qui a commencé, c'est qu'elle s'est fait une labioplastie à 18 ans,
ouais.
Complexée par ses petites lèvres. Et qu'en fait, ils lui ont ruiné des nerfs reliant à son clitoris.
Mm-hmm.
Que c'est assez commun en labioplastie. Et elle se bat en disant... Vous faites des opérations sur des zones que vous ne connaissez pas, en fait.
Ouais. Et moi, j'ai dans mon entourage, j'ai des connaissances qui, pareil, à 18 ans, sont fait des opérations parce qu'elles étaient complexées de leurs lèvres. Et je me disais, mais déjà, commence une sexualité, vois comment ça réagit. Et en fait, sort de ces injonctions que justement tout a été créé.
Aussi parce que dans... Comment ils appellent ça, pas dans un jargon médical, mais nous, quand on en parle entre nous, quand un médecin nous parle justement du schéma de cette zone intime, on dit grandes lèvres, donc pour les lèvres externes, et petites lèvres pour les lèvres internes.
Oui.
Sauf que souvent, c'est celles qui sont internes qui sont plus longues que celles qui sont externes. Du coup, quand des femmes découvrent ça et qu'elles disent... Bah, moi, mes petites lèvres, elles sont grandes et mes grandes lèvres, elles sont petites. Bah, forcément, elles sont en panique. Elles disent, ah, mais alors, je suis pas dans les normes comme ce qu'on nous montre. Bah, faut être mince, faut être aussi. Et là, même jusqu'à notre vulve, on en vient. Ah, ben bah, en fait, mes petites lèvres, elles sont grandes, donc ça va pas. Donc, il faut que je me fasse une opération esthétique. Donc, même dans les termes, on s'en rend pas compte, mais c'est souvent des termes comme ça qui...
Il pourrait juste mettre lèvres extérieures, lèvres intérieures, lèvres muqueuses.
Oui, maintenant, c'est les termes qui s'utilisent. Enfin, ça, c'est sûr que c'est les... nous, par exemple, on dira plus petites lèvres sur notre site ou nos réseaux. C'est pas parce que c'est pas le vrai terme, en fait.
Moi, je me souviens que j'avais pas compris quand j'ai lu le petites lèvres, grandes lèvres. J'ai fait l'inverse dans ma tête. Je me suis dit, bon, et en fait, j'ai une copine, c'est une copine qui, un jour, j'avais 23, qui m'a dit, mais moi, je me sens super mal de mon sexe parce que j'ai pas du tout d'élèves comme dans les films porno. Ce qui m'a sauvée, je pense que c'est que j'ai pas regardé les films porno et je savais pas du tout que c'était un délire de complexer sur la taille de sexe. Donc, c'était un privilège, mais c'est dingue les chiffres de personnes qui se font opérer sans jamais, sans même, je pense, avoir une connaissance de vraiment leur plaisir, de ce qui se passe, de la connexion. Et ça crée des catas. Mais c'est... T'as le nom de la fille que tu suis un peu givrée? Tu pourrais, tu veux bien nous le partager?
Elle est super. Je me responsabilise pas de tout ce qu'elle poste. Je dis pas que je suis d'accord sur tout. Je crois qu'elle s'appelle Jessica, Anne avec deux N et Pin peut-être avec deux N, un truc comme ça.
Mais en tout cas, tu la soutiens sur le fait qu'elle ait envie de compléter l'éducation sexuelle et
elle est assez. Alors c'est à l'américaine quoi. C'est-à-dire qu'elle est
extra.
Elle est ultra, voilà, elle est ultra militante, donc c'est vraiment, elle interpelle sur Twitter, « Hey, you, docteur, tu sais même pas de quoi tu parles et tout », elle se fait dégager par tout le monde parce qu'elle vient pas d'un milieu universitaire. Après, j'ai cru comprendre qu'elle a quand même conduit une étude sur ça, et tous les médecins, il y en a qui la harcèlent, ils disent « j'ai porté plainte, arrêtez de m'embêter », mais elle lâche pas parce que c'est vrai que... Je sais pas, ça pose quand même des questions sur l'hétérosexualité quand même en général. Il y a eu un livre qui est sorti sur ça, « Les hommes aiment-ils vraiment les femmes ?» Comment tu peux commencer une sexualité en haïssant tellement ton sexe véhiculé par l'autre sexe des imperfections ? Je veux dire, est-ce que nous, on a, je sais pas, déjà mesuré l'écart entre le scrotum et la couille qui pend ? Enfin, je veux dire, c'est des délires, en fait. C'est des délires. Et c'est pas des délires anodins, c'est pas juste des railleries de récré, parce que... quand tu te fais des opérations à 18 ans, ben tu peux avoir des douleurs irréparables. C'est très douloureux. Je trouve ça assez dommage, quoi. Assez dangereux, en fait.
Oui, ça l'est.
Et du coup, moi, je voulais juste rebondir justement sur ça, parce que les réseaux sociaux, ça a été super bien. Moi, dans mon expérience personnelle, ça m'a énormément éveillée sur la sexualité, sur la féminité, sur... ce qui est bon et pas bon. Et en même temps, là, je l'utilise beaucoup dans mon discours avec parcimonie, parce que je sais qu'il y a eu aussi un peu ce revers de
médaille.
De la médaille, merci. Là, je me souviens plus quoi, l'expression. Revers de la médaille. Par exemple, la course à l'orgasme. Moi, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est venu beaucoup, beaucoup dans ma tête. C'est un petit peu... on pousse tellement à dire... OK, fais-toi plaisir, et les orgasmes, ça t'aide pour tes règles, pour les migraines, pour ci, pour ça. Quand toi, t'arrives et que tu te dis oh, là, j'ai envie d'avoir mon orgasme, mais j'y arrive pas, et que tu te dis oh, pourtant, la table m'a dit que ça m'aiderait pour ça, eh bien, c'est là où moi, par exemple, je fais très attention à mon discours pour pas créer d'injonction sur la sexualité, pour justement pas tout le temps dire l'orgasme, c'est le truc indispensable. Parce que souvent, surtout dans une intimité faite à deux, tu peux avoir ton moment où tu te connectes à ton partenaire et que tu te dis là, on a eu notre moment intime, c'était cool, et on finit pas par un orgasme, c'est pas grave. Et donc vraiment prendre ce temps de se dire, allez, on s'en fiche, y a pas que l'orgasme qui compte, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Le plaisir, la prise de conscience aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, des corps, en fait, de ce que la masturbation, ça t'apporte. L'orgasme, certes, ça relâche beaucoup de bienfaits et de... ça relâche beaucoup de...
je sais pas, d'endorphines.
Voilà, d'endorphines. D'hormones qui font que ton corps s'apaise, mais tu as aussi tout plein de choses annexes qui font que tu as ton corps qui s'apaise d'autres manières, et surtout de comprendre... OK, là, c'est mes zones sensibles. Là, c'est mes zones qui vont me permettre de me reconnecter à moi ce soir après ma longue journée. Je prends le temps, je m'allume une bougie, encore une fois. Donc, c'est très important aussi de s'écouter et de ne pas tout le temps aller chercher à faire comme les autres, à être tout le temps dans le « je pousse plus loin, plus loin, plus loin ». C'est vraiment chaque chose en son temps, et chaque chose en son temps d'éveil, on va dire.
Ouais.
C'est marrant ce que tu dis, parce que j'avoue que je pense un peu le contraire.
Ah
alors,
ouais.
Alors moi, j'ai vu d'autres choses, justement. Moi, j'ai vu tellement de discours, alors on n'a probablement pas vu les mêmes, qui disaient, justement, il n'y a pas que l'orgasme, il y a le plaisir, et tellement axé sur ça, que du coup, tu as l'impression que l'orgasme féminin, je précise bien, est une sorte de graal inatteignable, et que tant que tu as passé un bon moment, c'est chouette. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, personnellement. Bien sûr qu'il ne faut pas que ce soit une injonction qui te fasse souffrir, mais je trouvais que c'était un peu le côté... bon, bah, si ton partenaire n'arrive pas à te faire jouer, c'est pas grave, t'as passé un bon moment.
Ouais, oui, non, ça c'est complètement différent.
Voilà, je suis d'accord. J'étais là, bah non, en fait, c'est assez chouette de jouir. C'est pas si compliqué que ça, vu les aspects à clito qui sont sortis sur le marché. Alors, je dis pas qu'on doit forcément passer par ça, mais le truc génial avec ce sextoy à la base, c'est que ça a montré que l'orgasme féminin pouvait être mécanique quand on pensait que c'était une sorte d'opération du Saint-Esprit entre un bon doigté, un bon timing et un amour.
Mais pourquoi ? Parce que ils n'avaient pas envie de passer du temps sur le clito et ils voulaient passer à la pénétration.
C'est ça.
Ce qui faisait que bah, quand on passe beaucoup trop vite à la pénétration, une majorité des femmes ne peut pas déjà lubrifier naturellement de manière assez consistante et qui puisse durer assez longtemps. Et elle a beaucoup plus de mal pour passer à l'orgasme. Donc, d'un coup, ah bah, l'orgasme féminin, c'est très compliqué, on n'y arrive pas.
Oui, c'est ça.
C'est,
bah, non,
c'est le livre des secrets.
En pensant à mes courses. Avec
exact. Alors que quand, nous, bon, quand bah, on s'en occupe nous-mêmes, ça peut aller très, très vite. Donc,
ah,
je suis
ça,
entièrement
oui,
d'accord avec
et
toi.
Et du coup, c'est ça qui a été génial. Après, je pense qu'il y a aussi des dérives avec la puissance que ça a sur le clitoris, la façon dont c'est effectivement robotisé. Donc, je ne dis pas que c'est génial. Et ça aussi, je trouve que c'est... C'est pas sous prétexte que t'as une fente qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Moi aussi, ça me saoule un peu. Les couleurs, les trucs, t'as l'impression... on peut y mettre des choses. Viens, on met tout et n'importe quoi. C'est bon, la paix, quoi. Enfin, je dirais...
Complètement.
En tout cas, toutes ces créations, elles nous invitent à nous poser des questions de qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai envie, comment je veux le vivre, est-ce que je veux un orgasme, est-ce que j'en veux pas, est-ce que je veux que tu me caresses l'épaule. Hier, on parlait avec Manon qui a écrit l'Instagram Le Cunu, qui a eu du vaginisme, et elle dit en fait, ça m'a aussi poussée à découvrir tout ce qu'il y a autour de la pénétration, ce qui n'est pas si facile, je trouve, aujourd'hui, de se dire bon, ok, la pénétration, c'est pas le centre, mais j'ai du mal à explorer autre chose. Et je trouve que c'est des outils, rien que d'utiliser Woomi ou Baobo, enfin, c'est les baumes ou d'utiliser Sim, c'est comme ça qu'il s'appelle le sextoy. C'est au moins des invitations à explorer ce qu'on nous donne pas trop comme opportunité. Vous, la création de ces produits, toutes ces réflexions, comment ça vous a aidé à vous réapproprier, si vous avez eu besoin de vous réapproprier, mais en tout cas à vous connecter, à vous réapproprier votre corps et vos envies?
Bah moi ça m'a sauvé ma vie intime, hein, de faire le baume quand même, parce que j'avais la vulve très sensible et du coup j'avais l'impression que j'étais un peu punie par la vie de devoir prendre vraiment beaucoup soin de moi, et j'ai l'impression que je pouvais pas faire l'amour aussi fort ou aussi souvent que je voulais, et que j'avais une sorte d'injonction naturelle à prendre soin de moi et devoir avoir un rapport particulièrement délicat pour pouvoir en avoir un. Donc d'un côté ça m'a protégée à une époque où moi j'avais peut-être une libido et un côté aventurier peut-être un peu dangereux, donc ok, merci la vie, mais en même temps j'en avais marre de cette sensibilité là donc ça m'a sauvée de dès que j'avais une gêne, une sécheresse après un rapport, pouvoir mettre le baume pour la vulve et aussi de voir que bah, mes mycoses s'espaçaient parce que j'avais un soin qui protégeait. Et aussi après en postpartum, énormément en grossesse, oui. Bon, la grossesse, le corps change, etc. Donc, on a tendance à s'enduire de plein de trucs quand on est enceinte. On met des crèmes, on met des machins. On passe notre temps un peu à toucher notre corps qui change. Mais en postpartum, c'est un peu... ça dégonfle comme ballon de baudruche. On se retrouve seul avec son corps qui a changé. En fait, il va rester changeant. Donc, ça, je pense qu'on n'est pas trop prêt au départ. Et du coup, bah, ça m'a permis quand même de me toucher avec bienveillance, en fait. Et je parle même pas forcément d'actes masturbatoires, juste de toucher ma vulve, de voir comment elle avait changé, de l'accepter, bah, de l'hydrater, de l'apaiser, de pouvoir reprendre des rapports. J'ai eu une épisiotomie qui était assez traumatisante, donc le fait de pouvoir mettre un soin, masser cette zone-là, même si je pense qu'il fallait plus que juste mon massage, mais quand même, ça a permis de créer un lien bienveillant, en fait, et apaisé, parce qu'apaisant, et du coup, c'est... Enfin, typiquement, quand on a cette partie du corps à vif, c'est tellement un centre pour nous que voilà, c'est comme une douleur aux dents, quoi. Ça quitte pas.
Ouais.
Donc, voilà.
Merci. Najwa, tu veux nous raconter ?
Ouais. Je pensais me sentir vraiment bien dans mon corps. J'étais plutôt à l'aise quand j'étais avec un partenaire. Mais ça m'a fait réaliser que il y avait plein de moments où je me demandais est-ce que lui il aime, est-ce que je me concentrais beaucoup plus sur son plaisir à lui
quitte à ne pas mettre un peu de côté le mien et dire bon, ça va, c'est OK. Et donc, en fait, à travers Wumi et à travers toutes ces recherches et même cette introspection que j'ai faite, j'ai réalisé que je n'allais pas du tout en profondeur dans qu'est-ce que j'aime vraiment. Je veux prendre le temps, finalement. Et quand la personne prend le temps pour moi, j'avais à chaque fois un peu ce moment de pas culpabilité. C'est comme quand quelqu'un te fait un massage et que tu dis bon attends viens moi aussi je te rends la monnaie de ta pièce, tu vois. Alors que non, en fait, apprendre à recevoir. Et parce qu'en fait, quand quelqu'un te donne, c'est qu'il a vraiment envie de te le donner. Donc la chose que tu peux faire, c'est d'en profiter et de vraiment recevoir. Et oui, de moins penser à l'autre et de plus penser à moi. Et voilà, ça change. Même pour l'autre personne, ça change énormément les choses. Voilà.
En fait, c'est rigolo parce que moi, je suis à la fois, mais en 100% partage de ce reconnexion à soi, vraiment penser à soi. Et en même temps, on évolue tellement dans une société qui est individualiste et qui se tourne vers l'individualisme de par les réseaux sociaux, de par toute cette course à il faut prendre soin de soi d'une manière en plus, de plus en plus toujours dans le marketing de ce produit, il va te faire ça et ça. C'est un petit peu compliqué et je trouve que ça c'est... Il y a sur certaines technologies et certains produits, ça fait vachement l'effet inverse. Et moi qui a découvert ma sexualité assez tard, mais en même temps, du coup, assez tôt sur l'univers des sextoys, parce que c'était quasiment sur le début de ma sexualité que j'ai acheté mon premier sextoy. J'ai adoré parce que j'ai vraiment redécouvert et pris plus de plaisir. J'ai eu des orgasmes quasiment dès les premiers rapports et j'ai essayé différents produits qui me permettaient en fait de découvrir mon plaisir vraiment d'une explosion de sensations vraiment intense et toujours d'aller chercher différentes sensations, différentes technologies. Et en fait, il s'est passé, je me souviens, une conversation avec un compagnon qui m'avait dit « Mais tu vas être un peu accro à ton sextoy, et ci et ça. » Et je me disais « Bon, moi, pas du tout. Au contraire, si mes rapports peuvent être à chaque fois explosifs, tant mieux. » Mais il s'est passé un moment où, en fait, c'était très mécanique. Je sors mon sextoy, ça va me faire une explosion de sensations, une explosion de plaisir, et ça va être l'orgasme assuré, plusieurs orgasmes même, toujours le sexe au max. Et c'est là où je me suis posé la question à me dire, ça m'a vachement déconnecté de moi-même, ça m'a vachement déconnecté de mon partenaire, et c'était vraiment cette consommation d'orgasme. Parce qu'il y a ce bien-être, parce que tu rentres du boulot, tu te dis « Ah, j'ai pas envie de prendre le temps, on va aller direct à l'orgasme. » Et c'est ça qu'il faut. Et je trouve que ça a été cette réflexion qui était super intéressante de se dire « Eh ben, tu peux avoir du plaisir, mais en prenant le temps. » Alors, je te dis pas que par exemple, moi, j'utilise pas toujours mes vibros, enfin mes sextoys justement à air pulsé qui te donnent un orgasme en 20 secondes quand on a envie. Mais par contre, d'avoir cette option aussi de se dire « Ah là là, l'intimité, ça fait du bien aussi quand tu peux prendre le temps. » De donner ton jouet à ton partenaire et qu'il soit pas là forcément juste « Ah, il est où ton clitoris ? Ah mince, il est toujours à côté. » Là, il peut aller explorer autre chose. Parce que du coup, moi, perso, je laisse rarement la main à mon partenaire avec mon vibro parce que c'est toujours à côté comme d'habitude. Mais du coup, sur ce type d'objets qui peuvent être vraiment faire autre chose, quoi. Prendre le temps d'aller voir autre chose, c'est hyper intéressant et ça m'a... encore révolutionner ma sexualité mais d'une autre manière parce que du coup maintenant j'ai cet aspect très orgasme mécanique assuré qui fait du bien qui est cool et l'aspect on peut prendre le temps et il y a plein de manières de prendre le temps et c'est toujours hyper intéressant de se redécouvrir que ça soit toute seule ou avec un partenaire. C'est ça a été vraiment ça moi la une marche en avant, une marche à recul et une remarche en avant encore plus loin quoi.
Parce que trop se connaître sexuellement, parfois, ça t'empêche d'explorer et de juste être avec l'autre. C'est très bizarre quand quelqu'un dit « Moi, j'aime ça comme ci, comme ci, comme ça. Alors là, tu me caresses comme ça, comme ça, comme ça. Mm-hmm. » Bon, j'ai pas besoin d'être là, en fait.
Exactement. Exactement.
C'est vrai que ça j'avais pas entendu ça comme ça quand tu parlais tout à l'heure par rapport à l'orgasme et du fait de t'en déconnecter. C'est vrai que moi, j'ai pas connu ça comme ça. J'avais pas envisagé le fait que t'arrivais un peu avec ta recette toute faite et qu'effectivement, il n'y a pas de place pour l'autre. Parce
c'est
que
ça, tu sors ton vibro préféré.
Il y a aussi l'empouvoirment de « c'est ce que j'aime, je me connais », etc. C'est un peu le... Le double tranchant, quoi.
Il n'y a pas de place pour l'autre et il n'y a pas de place pour découvrir s'il y a un autre moyen aussi de découvrir l'orgasme d'une autre manière. Et peut-être que c'est des possibilités infinies, justement.
Complètement, parce que t'aimes ton plat de pâtes préféré. Tu le manges tout le temps. Au bout d'un moment, ça perd de sa saveur. Et c'est cool d'aller découvrir autre chose. Et c'est cool de pouvoir le faire soi-même, d'aller découvrir autre chose. Mais aussi quand quelque chose, soit que ce soit un article, un objet ou une personne peut te dire « Ah, bah tu sais, il y a d'autres manières de penser. » Et moi, je trouve que c'est aussi ça qui est beau dans l'humain, c'est que ça serait chiant de faire tout le temps la même chose, tout le temps de la même manière et de penser tout le temps de la même chose. Je pense qu'il faut évoluer, évoluer avec son temps, mais aussi évoluer avec ce qu'on propose sur le marché, en tant que lecture, en tant que podcast, en tant qu'article, et de toujours aller se dire « Ok, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'était le moi d'il y a 3 ans qui a toujours fait la même chose, qui a justement cette recette magique de « Alors là, moi, mon orgasme, je peux l'avoir en 30 secondes, que je sois seule ou avec mon partenaire, parce que tu te mets dans cette position avec ton vibro préféré et c'est tout. » Et là, c'est vraiment cette idée de « Ok, on peut aller chercher de la sensorialité, du ralentir, de chercher autre chose. » Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais.
Mais ce que je trouve, ça me fait penser à une copine qui s'était pas du tout masturbée jusqu'à ses 25, parce que tabou autour de la masturbation, tabou autour du plaisir féminin. Enfin, moi, j'ai quand même un de mes potes d'enfance qui m'a sorti que lui, il voulait coucher... Enfin, il considérait qu'une fille qui s'était caressée, qui avait découvert sa sexualité avant de coucher avec lui... Enfin, genre en mode, c'est avec les hommes, c'est avec l'autre, sinon c'est trop individualiste. Donc t'as quand même tous ces trucs autour du plaisir. Et avec tous les changements de mentalité, bah elle s'est dit un jour, vas-y, j'ai envie de me caresser. Donc elle s'est caressée, petit à petit elle a eu des orgasmes, et en fait elle m'a dit que c'était la libération, parce qu'elle dit c'est comme si l'orgasme il était assuré dans ma vie. Si j'avais envie d'avoir des orgasmes, je peux. Donc avec mes partenaires, je suis moins dans ce stress de je veux un orgasme, il faut. Elle dit je suis plus en mode de toute façon je sais que si j'ai envie d'un orgasme ce soir, je peux avoir un orgasme de la manière que je veux. Et je trouve que les sextoys aussi permettent ça. Et donc le champ finalement de curiosité, la pression en fait à deux baisse. En tout cas, j'ai l'impression que ça résonne, ce que vous dites résonne avec cette histoire et ma propre expérience qui est de maintenant faire l'amour dans une sorte de chill. Vas-y, je te sens au taquet.
Il y a une sorte de dicton bouddhiste qui dit qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais ami. Et je dirais même à contrario, le bienfait de bien s'entourer. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très tôt ma sexualité. Et je pense qu'aussi, c'est la différence, c'est que j'ai pas eu le temps d'apprendre à me découvrir. Je l'ai commencé très tôt avec un garçon par curiosité et par amour. Donc en fait, je me suis masturbée après avoir eu ma première fois, en fait, parce que, on va dire que je l'ai eu tellement tôt que j'ai pas eu le temps de me dire, tiens, comment, bon bref. Mais je me rappelle, j'avais une amie qui était comme moi, qui avait pas du tout froid aux yeux, et on était en seconde. On parlait tout le temps de sexe. Et un jour, je lui dis, mais toi, c'était quoi ta meilleure fois, quoi. On parlait un peu. Et elle me regarde comme ça, mais je m'en rappellerai toujours avec des yeux tout malicieux. Et elle me dit, bah, c'était avec moi-même dans mon bain. Et en fait, ça m'a ouvert une porte de dingue. Déjà, bah, je me suis rendu compte que je me masturbais très peu, enfin pas. Et en fait, enfin je sais pas, c'était génial parce que c'était une fille qui prenait son plaisir et qui s'épanouissait avec les mecs, mais le fait qu'elle... Je sais pas, j'ai vu ça comme une sorte de boutade assez magnifique. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me sorte ça. Et c'est pour ça, je pense que, tu vois, quand t'as des garçons qui disent ça ou ce genre de phrase, en fait, voilà, de qui on s'entoure, quoi. Comment les gens nous nourrissent. Et elle m'avait vraiment inspirée, quoi.
Ouais.
J'avais trouvé ça génial.
C'est là où je trouve ça trop beau, c'est d'avoir tous ces discours inspirants maintenant qui sont plus accessibles sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, sur les livres. C'est qu'en fait, les femmes, elles se disent « Punaise, mais je n'ai pas qu'une seule obligation d'avoir un sexe pénétratif. Je n'ai pas que l'obligation d'utiliser des sextoys qui ont une forme de rabbit, par exemple. Je n'ai pas l'obligation de nettoyer ma vulve avec des produits qui...
La vanille.
Qui sentent la vanille. En fait... Là, on peut chacune trouver son bonheur. On peut chacune, en fait, aller explorer son bonheur de la manière dont nous, on le ressent. Parce que, par exemple, moi, Pauline, je vais avoir cette envie de faire ça, ça ou ça. Mais si ça se trouve, les autres, elles vont pas du tout avoir envie de faire ça comme ça. Et c'est pas grave. Chacun a un petit peu ses envies. Et donc, là, je trouve qu'on a de plus en plus de clés, souvent en plus pensées par des femmes pour les femmes, pour aller trouver ces objets, ces pensées, ces manières de faire qui nous conviennent, en fait. Et ça, je trouve ça trop beau.
Je me suis demandé si Bethsabée, tu dis que tu as beaucoup travaillé société, sexualité, couple. Et en fait, je me demande comment, dans les personnes que vous avez rencontrées sur le parcours, ou des femmes qui vous ont parlé, ou peut-être des hommes aussi qui utilisent vos produits, les conversations que ça ouvre dans les relations, dans les couples, que ce soit hétéro, homo, lesbien, tout, c'est, est-ce que vous avez vu que ça ouvrait des conversations?
Ah oui. Mais alors là, mais 600%, mais pas en plus que pour les couples. Moi, j'ai été hyper étonnée de voir comment ça ouvrait aussi la conversation dans les familles, dans les cercles d'amis. Parce que par exemple, moi, comment je suis venue à penser à la sexualité et l'intime féminin, c'était vraiment un soir d'été avec mes copines. Ça faisait des années qu'on était amies. On n'avait jamais vraiment parlé de masturbation. Et ce soir-là, je me suis rendu compte qu'à 19 ans, il y en avait qui étaient sexuellement actifs depuis très longtemps, qui n'avaient jamais eu d'orgasme, qui ne s'étaient jamais masturbés. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un souci complètement chez nous, les femmes, de complexe, de tabou. Et donc, en fait, ça fait 4 ans que je suis un petit peu dans ce milieu de l'intimité. Et que je vois que ça ouvre la conversation dans les couples, parce que moi j'ai éveillé aussi de mon côté intime dans mon couple, mais dans ma propre famille, j'en parle librement entre guillemets avec mon père. Alors on va pas parler de nos expériences personnelles, mais on va parler de féminité, ce qui n'était jamais arrivé. Lui, ça l'a aussi amené à réfléchir autrement. Avec mes sœurs, avec mes amis, mais que ce soit femme ou homme, et aussi avec des gens dont je ne pensais jamais discuter ça. Mes oncles, mes tantes, des gens que je peux rencontrer ici sur le salon. Et c'est ouf de voir en fait qu'il y en a qui vont être vraiment dans des clichés et d'autres qui vont ouvrir leurs pensées. Et en fait, au final, peut-être au début, arriver un peu gêné, à ricaner. Et en fait, après, à la fin, ils vont sortir de cet échange en se disant « Ah !» Ça m'ouvre un peu l'esprit sur autre chose et ça peut être hyper intéressant d'explorer d'autres voies.
Mm. Pour Bobo, les couples, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est plutôt un éveil de soi à soi, en fait, par rapport au gène intime de la vulve, etc. C'est plutôt un éveil de femme, d'elle à elle-même, en fait. En revanche, il y a de plus en plus d'hommes qui achètent le baume vulve, donc je pense pour leur partenaire. À qui profite le crime? À eux. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est une démarche qu'on a vite vue et que je trouve assez chouette parce que, du coup, moi, ce que ça montre, je ne les ai pas rencontrés, ces hommes. Franchement, je ne les ai jamais vus. Mais ce que ça montre, c'est qu'il n'y a plus un tabou de performance. Enfin, il n'y a plus une obligation de performance de la femme de, en fait, tu dois toujours être lubrifiée, tu ne dois jamais avoir mal et tu dois toujours être prête à m'accueillir. Au moins, il y a l'idée de, tiens, elle peut avoir mal. Je sais qu'elle a mal parfois. Et j'ai trouvé quelque chose pour elle. Et donc ça, je trouve ça assez chouette, en fait, qu'ils osent prendre ça sans avoir probablement aucune idée de pourquoi pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, ils le prennent vraiment pour l'autre. Et à contrario, on a un baume de soin anal qui s'appelle le baume cul. Et c'est vrai que pas mal de femmes l'achètent pour leurs compagnons. Donc je crois que les hommes, avec leur anus, il se passe plein de choses, même de désagréments. Encore une fois, pareil, ils nous en parlent peu,
ouais.
Mais beaucoup de femmes, elles disent, voilà, c'est pour mon compagnon, on le voit beaucoup. Et ça montre aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, le care des femmes au sein des couples et des familles, c'est-à-dire qu'elles vont quand même à peu près systématiquement penser à prendre soin des hommes et des personnes autour d'elles, quoi. Donc ça, je l'ai beaucoup plus vu très, très ouvertement, tout en, disons... Les hommes aussi peuvent prendre soin, mais je trouve que la différence, c'est que je les soupçonne, ils savent qu'ils vont en profiter. Là où, quand une femme offre le baume cul, globalement, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour son intérêt personnel. Je suis pas sûre que c'est forcément des hommes hétérosexuels qui vont, par exemple, pratiquer de la pénétration anale, sur eux-mêmes, on va dire. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment pour le soin pour eux. Voilà, ça c'est un peu la différence que j'ai pu voir.
Et est-ce que sur justement vos deux projets, parce que moi c'est comme ça que je l'entends aussi un petit peu, parce que quand je suis venue sur ton stand hier pour Baobo, j'ai direct pensé à ma sœur qui est enceinte. Et c'est vrai que je pense que ça doit vachement aussi ouvrir, on va dire un peu cet esprit sororité, d'échange, de comment dire, de difficultés qu'on peut tout avoir. Et en fait, ça crée un petit peu cette union féminine de oh, hey, j'ai un soin, autant un gel nettoyant qu'un baume, un pain intime, que j'utilise qui est incroyable. Tiens, faudrait que t'essayes. Parce que c'est un petit peu difficile d'aller dire à une de ses copines oh, j'ai la vulve qui gratte. Voilà. Et moi, je trouve que ça doit vachement ouvrir un discours féminin, un petit peu de cocon, de sécurité. Tiens, j'ai ça pour toi, trop bon conseil, fonce quoi.
Je pense qu'il s'offre aussi de plus en plus d'amis à amis. On voit parfois, il y a des filles qui nous disent ah, je l'adore, je l'offre à mes copines, j'en parle à mes copines. Je pense qu'une fois qu'elles l'ont testé et qu'elles voient que ça leur fait vraiment du bien, il y a l'idée de partage en fait. Parce que tu te dis bien que si tu le vis, t'es pas toute seule. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on martèle. Hein. Pour reprendre un peu ta question du début, c'est pas pour créer un besoin, mais on a toujours dit. Franchement, si tu fais partie de la minorité qui n'a jamais eu de problème de vulve, mais félicitations, Mazel Tov, et kiffe bien, et profite, et ne nous approche pas. Tu n'as pas besoin de nous. Non, vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, j'adorerais, je ne sais pas à quoi ressemble ce monde, mais j'adorerais mettre n'importe quelle culotte en lycra, n'importe quel bikini, n'importe quel pantalon serré, et pas ressentir de gêne, je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'elle se le partage, mais... C'est effectivement un truc plus de sororité. C'est pour ça que nous aussi, on essaie d'être un peu transgénérationnel dans cette optique-là. On dit, ça peut être pour toi, pour ton bébé, pour ta mère, pour ta grand-mère. Parce qu'on sait que, y a bien un moment où tu vas traverser ça et que avoir cette légèreté, en fait, de pas forcément pathologiser, que c'est assez quotidien, assez commun. Et comme disait, je sais pas, comme il s'appelait Doc Edifoul, ce n'est pas sale, ce n'est pas grave, tu sais.
Oui, moi je remarque beaucoup quand on me dit qu'est-ce que tu fais et que je parle de mon produit là tout de suite. Alors, je vais te raconter un truc très personnel. Tout de suite, comme si c'est des filles que je connais pas du tout. Et je dis non, t'inquiète pas, je suis habituée. Et c'est là qu'on voit que majorité de femmes ont des problèmes vulvaires ou vaginaux. Alors après, je remplace pas un médecin. Hein, Je leur conseille ma gynécologue ou si c'est des choses qui sont en dehors de mon pouvoir ou de ce que je connais. Donc ça, c'est pour les femmes. Et pour les hommes, je sais pas, mais on dirait qu'en fait, souvent, cette conversation ne vient pas sur la table parce qu'en couple, c'est difficile de parler de... Il y a deux tabous en couple, c'est l'argent et le sexe. Et du coup, à moins de réussir à rentrer dans une relation où vraiment on peut parler de tout et combien de temps, vous savez, moi, combien de temps ça m'a pris de dire à un partenaire que j'adorais, ça j'aime pas trop comme ça, parce qu'on a peur de vexer, parce qu'on a peur de démotiver et qu'on a envie d'applaudir un travail, mais s'il n'est pas bien fait, en tout cas le fait d'avoir vraiment essayé pendant très longtemps. J'ai vu une certaine vulnérabilité de la part d'hommes qui, du coup, se sentaient en confiance de par mon métier et qui posent plein de questions, en fait. Ils sont en couple, hein, parfois. Et c'est juste, ils ont envie de faire plaisir à leur femme, à leur fiancée, à leur copine. Là, c'est vraiment centré sur les personnes hétérosexuelles.
Ouais.
Et pour, justement, les personnes hétérosexuelles, j'aime bien... amener les hommes hétérosexuels dans cette conversation aussi, parce que je pense qu'on a aussi besoin d'eux et on a aussi besoin de leur dire que on a envie d'eux, on a envie de les inviter en fait. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle étape de ne pas seulement me centrer sur les femmes mais aussi d'avoir leur support.
Ouais, vraiment ouvrir la porte.
Et de leur dire que, on sait faire plein de choses toute seule, on peut tout faire même mieux que vous. Mais est-ce qu'on a envie? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas envie.
Bien sûr.
J'ai aussi envie de.
De se libérer de cette désir.
Exactement.
Mais par exemple, moi aussi, ce que je trouve sympa, c'est dans votre image aussi de marque sur toutes les deux, c'est vraiment cet aspect aussi décomplexant de. Tu peux clairement. Ton mec pourrait aller acheter ton soin intime. Parce que le nombre de fois où je pense que les mecs, ils étaient gênés d'aller acheter les culottes ou les serviettes les serviettes hygiéniques, tout ça, ils sont un peu gênés toujours. Que là, vous apportez aussi des produits qui sont moins complexants, on va dire, à offrir à sa compagne pour l'aider. Et ça, je trouve ça top.
Nous, on avait pensé carrément le packaging pour que ça puisse être pensé comme un cadeau. En fait, qu'il y ait l'idée, parce que par exemple, c'est 100% bio, mais c'est pas blanc et vert avec des feuilles, quoi. Donc on se disait, ok, ça, bio, c'est la base, c'est pas le but, c'est la base. Et maintenant, voilà, on voulait se dire, c'est vraiment un truc que presque si t'es pas sûr d'en avoir besoin ou d'oser, tu l'offres parce que c'est rigolo et que c'est joli. Et au moins, tu te dis, bon, bah tiens, regarde, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, il y a écrit vulve, voilà. Mais pour l'anecdote, ça, parce qu'on parle beaucoup, c'est assez hétérocentré. Nous, on a vu que les lesbiennes avaient un peu moins de gêne par rapport au rapport sexuel, mais qu'elles aimaient bien l'utiliser. On a travaillé avec des influenceuses, du coup, on a vu qu'elles aimaient bien aussi. Et notre tout premier client historique, c'était quand même absurde, bah, c'était un homme gay de 60 ans qui a acheté le baume vulve. Donc on se dit, bon, bah, là, tout est possible. On n'a pas compris. On s'est dit, niveau business plan, là, niveau business model, il y a un truc qui nous échappe. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant, en fait, les usages et ce que les personnes osent ou pas, en fait. Ça peut aussi nous étonner et dépasser ce qu'on avait pensé à la base.
Et oui, est-ce que tu disais, par exemple, pour les couples hétérosexuels, c'est vrai que souvent, on m'a fait la réflexion, pourquoi dans ton discours, tu parles souvent du couple hétérosexuel? Et bien, j'ai clairement dit, ben, c'est souvent là où ça pêche, en fait. Parce que souvent, les couples gays, on va dire, ont moins ce besoin d'aller remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'ils s'écoutent, ils se comprennent que là, entre un homme et une femme, souvent, il y a cet écart de corps, déjà, de base, et cet écart de plaisir, de libido, de mécanique de corps. Et donc, du coup, d'aller un petit peu essayer de reconnecter les deux entre eux pour déjà la femme un peu mieux comprendre l'homme un peu mieux comprendre la femme, et donc déjà de décomplexer un petit peu ses utilisations d'accessoires, de produits des deux côtés. Je trouve ça trop bien parce que ça permet d'un petit peu essayer de reconnecter deux univers qui en ont rien à voir quand même de base.
Bah, je pense que l'idée d'ouvrir le dialogue, ça ouvre les dialogues, cette révolution intime, elle ouvre le dialogue envers soi-même. C'est ce que tu disais, c'est soi envers soi d'abord. Et c'est la porte ouverte pour ensuite, dans une relation de confiance, communiquer, discuter et vraiment ouvrir. Et ça, je pense que... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des produits de base quand même plus... pour les femmes, en tout cas de base pour les femmes, créées par des femmes qui vont vraiment comprendre ce qui se passe, qui vont utiliser les mots qui résonnent en fait, en créant vraiment un chemin de « ok, va par là si t'as envie, apprends à t'écouter », et après d'ouvrir sur plein de dialogues dont on a absolument besoin. Effectivement, dans les couples hétéros, la grande question c'est, enfin, moi je suis hétéro, c'est pourquoi je suis amoureuse des mecs, parfois je me pose la question. Je me dis franchement, c'est super, hein. J'adore, je les adore, mais c'est vraiment de l'amour, il y a des moments. Donc de savoir que ça existe pour ouvrir le dialogue, c'est assez génial, donc merci. J'ai une dernière question dans cette idée de révolution intime, de femme pour femme, de sororité. Si vous aviez une petite vous en face de vous, avant son cheminement intime, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire?
Moi, ce serait vraiment trust the process, parce que souvent, on a peur de la nouveauté, on a peur de se lancer, on a peur de découvrir. Et en fait, je pense que tout ce qui est lié à l'apprentissage d'une manière ou d'une autre, d'un sujet ou d'un autre, ça ne fera que grandir. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se renfermer dans une manière de faire. Parce que moi, je me suis souvent dit, comment les couples, au bout de 40 ans de mariage, ils sont encore... super épanouie, ou alors j'ai déjà entendu plein de fois, ah punaise, mais si on fait ça maintenant, qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans? Moi, en fait, c'est ça que je me suis dit, ben non, en fait, c'est aujourd'hui, à 25 ans, tu peux faire ça, et à 50 ans, tu peux faire exactement la même chose, mais vu que tu auras eu un parcours de vie et que sûrement tu seras éveillé, eh ben ça va avoir une saveur complètement différente. Donc, moi, ça serait plutôt me dire ça serait plutôt me dire explore, éveille, prends tout le temps en fait en considération des nouvelles choses, parce que être sur ses acquis, c'est pas cool, c'est pas intéressant, c'est bien sur le court terme, mais sur le long terme, faut toujours aller chercher de la nouveauté et surtout à se mettre en dualité avec soi-même et avec les autres, et ça c'est hyper intéressant. Et surtout, écouter plein de discours, plein de personnes, parce que on a toute notre manière de penser. Et tu vois, tout à l'heure, tu n'avais pas forcément compris dans un premier temps. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on se met toutes des petites graines à pop-up et qui vont germer d'une manière ou d'une autre et qui vont permettre de nous éveiller au maximum et surtout peut-être de mieux éduquer après nos futures générations.
Merci beaucoup.
Merci. Moi, j'avoue, je trouve que c'est une question assez émouvante, en fait. Que je m'étais jamais posée comme ça. Ce qui me vient, c'est tu peux et tu vaux. Parce que moi, j'ai tellement eu tendance à penser que je pouvais pas, que ça venait toujours des autres, en fait. Je crois que le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome de l'impostrice. En fait, je pense que ça vient c'est un syndrome que les femmes vivent. C'est pas un syndrome d'homme, en fait. Et du coup, je pense que tu peux et tu vaux. C'est-à-dire toutes les envies que moi j'ai eues avant de monter ma boîte et auxquelles j'avais l'impression que c'était jamais pour moi. Écrire, j'avais l'impression que non. Voilà, plein de choses dans lesquelles je me lançais. Et mon associé me le dit souvent, en fait, je pense qu'on n'a pas le même parcours là-dessus. Et en fait, moi, depuis le début un peu de Bobo, j'ai toujours le fantasme de la personne parfaite qui va répondre parfaitement aux besoins de ma boîte. Donc je rêve toujours du génie marketing qui va me donner la façon de le dire ou la DA géniale qui va réussir. Et en fait, mon associée, elle prend le truc au contraire. Elle m'a dit, il y a quelques mois, elle m'a dit, en fait, je te le dis tout net, on ne paiera plus jamais de DA. C'est moi qui fais la DA. Mais elle me dit, ça me fatigue que tu passes ton temps à chercher quelqu'un où tu penses va faire mieux, où t'es toujours déçu de ce qui est fait et où tout le monde dit que c'est très bien ce que tu fais. Donc en fait, elle m'a dit, c'est tout net, il n'y a plus de budget DA, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, c'est toi. Oui, mais... Et donc j'ai toujours ce fantasme de cette espèce de génie qui va mieux faire que moi, mieux comprendre le produit que moi, mieux le valoriser, mieux le marketer. Et en fait, elle me dit, mais arrête, ça suffit. Et du coup, je pense que voilà, si on m'avait dit très tôt, tu peux et tu vaux, et du coup, arrêter de chercher chez les autres et de regarder l'autre, waouh, c'est génial, sans mettre en valeur ce que nous-mêmes on fait, en fait. Mais je l'ai encore un peu. Il y a des bons côtés à ça, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à ce que font les autres et je suis très inspirée par le travail des autres et j'adore voir l'innovation et tout. Mais être droit dans ses bottes et moins douter, quoi. Se dire, là, je fais ça. Et parce que je le vaux et parce qu'on est unique et qu'il faut que je le fasse parce que c'est moi.
C'est parfait.
Merci.
Moi, je dirais de faire plus confiance en mon instinct et aussi que quand tu es sur le bon chemin, il y a toujours des portes qui s'ouvrent au moment où il faut qu'elles s'ouvrent. Et voilà, avoir foi. Foi en ce qu'on fait et aux autres aussi, parce qu'en fait, les autres t'accompagnent même quand tu les vois pas. Il y a tellement de moments où tu as l'impression d'être seule, même quand tu es associé à quelqu'un, j'imagine que... Parce qu'en fait, même à deux, vous devenez une seule entité, et donc tu as l'impression d'être seule. Je te dis, mais qui en fait connaît mon produit? Mais qui l'utilise? Et puis tu as des jours où tu te rends compte que non, en fait, tu as une femme de passage en France, elle a découvert ce produit, qu'elle l'a emmené à l'autre bout du monde et qu'elle l'utilise tous les jours et que ça lui fait du bien, que ça lui change la vie. Donc voilà, faire confiance en son instinct et trust the process, c'est mon mantra de cette année d'ailleurs.
Ouais. Mais c'est hyper important parce que en plus on a un milieu, un domaine, un sujet qui est compliqué à explorer et à faire entrer dans les mœurs. Mais moi, j'y crois dur comme fer et je pense vraiment, vraiment sincèrement parce que je suis toute jeune, j'ai 26 ans et ça fait 4 ans que je suis sur le sujet. Donc à 22 ans, je me disais déjà, c'est vraiment essentiel d'éveiller le plus tôt possible. Pas trop tôt non plus parce qu'il y a des choses où on n'est pas obligé de savoir trop tôt, mais assez tôt pour pouvoir se dire, mais c'est essentiel, surtout chez nous, les femmes, libérer de la charge mentale, développer une puissance féminine qui est importante. Et je pense qu'on a vraiment un sujet qui est extrêmement important. Et on doute, on a peur, mais on fonce. Et il ne faut jamais rien lâcher, je pense. Et c'est pour ça que je trouve que c'est cool de se rencontrer parce qu'on se dit, on a toutes les mêmes craintes, mais on y va, on fonce et c'est hyper inspirant. Donc, trust the process.
Merci beaucoup, mesdames.
Merci.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de prendre soin de vous comme jamais.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Terres Intimes, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Encore un grand merci à Betsabé, Najwa et Pauline, ainsi qu'au Salon International de la Lingerie pour son invitation et à Nina Zebouloun pour toute l'organisation. Enfin, merci à Théo Carlini au mixage son, sans qui tous les épisodes n'auraient pas pu être aussi rapidement publiés. Et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour la suite de Terres Intimes et le retour des interviews dans mon salon entre plaid, brunch, gourmandise et bien sûr, sexualité et intimité.